France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Passeur de réel, Richard Dindo, par Irène Omelianenko. Richard Dindo est né en 1944 à Zurich. Il est cinéaste, très marqué par les grands de la fiction. Il s'exprime dans le documentaire. Le documentaire ne s'oppose pas à la fiction. Il se construit, il se met en scène. Les films de Richard Dindo interrogent la Suisse, à travers notamment l'exécution du traître à la patrie Ernest Hess. Son art, dit-il, est un art de la biographie, s'attacher au réel et renverser les mythes.
Je ne peux plus quitter mon journal. Je dois m'y accrocher, c'est tout ce que je peux faire. Je voudrais pouvoir expliquer ce sentiment de bonheur que je ressens de temps en temps, comme maintenant par exemple. Je vis dans ma famille parmi les meilleurs et les plus aimables êtres humains. Mais je leur suis plus étranger qu'un étranger. Avec ma mère, j'ai échangé ces dernières années à peine plus de 20 mots par jour. Avec mon père, j'ai rarement échangé plus qu'un bonjour. Je ne parle absolument pas avec mes sœurs mariées, ni avec mes beaux-frères, sans pour autant être fâché avec eux. La raison en est tout simplement que je n'ai absolument rien à leur dire. Tout ce qui n'est pas littérature m'ennuie, et je le hais, car cela me dérange et me retient.
Passeur de réel, Richard Dindo, par Nathalie Battus et Irène Omelianenko.
Moi, je filme les morts, je filme des fenêtres, des chaises, le ciel, des nuages qui passent. Je sais pas filmer le mouvement, je sais pas filmer sur le vif. C'est pas ma vision du documentaire. Je cours pas après les événements. Je cours après le passé, après la mémoire, après l'absence.
Richard Dindo, considéré comme le plus grand documentariste du cinéma suisse, n'a pas encore droit à la reconnaissance qu'il mérite. Obstiné et mal commode, il travaille à son œuvre en suivant son goût, plus que l'attente du public ou du milieu. Jean-Louis Kuffer.
Enfant de la Cinémathèque, je voyais que des films de fiction. Déjà, on méprisait le documentaire, aussi à la Cinémathèque française comme ailleurs. Donc, je ne voyais que de la fiction. Donc, je suis un enfant de la fiction. Je rentre en Suisse, mais en Suisse, je n'ai pas envie de raconter des histoires. Quand vous racontez une histoire à un Suisse allemand, il n'écoute pas votre histoire, il n'écoute pas le son de votre voix, la musique de la parole. D'ailleurs, le Suisse allemand n'est pas une langue musicale. Il n'a qu'une chose dans sa tête, c'est de savoir si cette histoire est vraie ou inventée. Et toujours, ils vous disent, c'est pas vrai, c'est pas possible, ça peut pas être vrai. Donc, vous perdez l'habitude, vous perdez l'envie, tout simplement l'envie de leur raconter des histoires. Donc, j'ai pensé que vaut mieux de faire du cinéma documentaire, autant plus que j'ai pas envie de travailler avec des acteurs. J'ai envie de raconter des histoires vraies avec des personnages vrais parce que j'avais un manque d'origine, j'avais un manque de patrie dans ma vie. Donc je devais faire du documentaire pour tout simplement retrouver mes origines et me réconcilier surtout avec mes origines.
Je m'en allais, les poings dans mes poches crevés. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'ai grainé dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttelettes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés. À pied près de mon cœur.
Vous, Gérard Courant, vous êtes curieusement, on vous connaît comme cinéaste. Et puis, en cherchant dans l'univers de Richard Dindo, je me suis rendu compte qu'en France, vous avez été quand même parmi les premiers à écrire sur lui. Et donc, dans quelles circonstances vous avez écrit ces premiers articles pour la revue Cinéma ?
Alors, dans la revue Cinéma, j'étais souvent envoyé vers les films qui n'étaient pas soit les films commerciaux, il y a certains critiques qui se réservaient ces films-là, et puis aussi, il y avait un certain nombre de critiques qui se réservaient les films un peu sociaux, militants, et ce qui restait souvent, cinéma d'avant-garde, cinéma de recherche, toute forme de nouveau cinéma, c'est moi qui m'y collais. Et comme j'aimais ça, j'étais très très heureux. Et donc, il est fort possible que ce soit le rédacteur en chef, qui s'appelait Gaston Ostrat, qui m'a dit « faut absolument que tu ailles voir ces films-là et que tu écrives dessus ». Souvent, ça se passait comme ça. Et donc, je me souviens que j'étais allé voir les films en projection de presse et qu'à cette occasion-là, et c'était assez peu fréquent à l'époque, le réalisateur était présent. Et en fait, c'était Richard Dindo lui-même et non pas un attaché de presse qui était là pour nous accueillir. Il y avait eu quelques projections de presse, mais deux ou trois, je pense. Il y avait d'ailleurs très, très peu de monde, ça, je m'en souviens. Et donc, c'était Richard Dindo qui nous avait accueillis. J'avais pu discuter, d'ailleurs, avec lui à ce moment-là de ces deux films, parce que c'était les deux premiers films, c'était Des Suisses dans la guerre civile d'Espagne et c'était L'exécution du traître à la patrie Ernest S. C'était, je crois, en 1977 ou 78. Enfin, je pense que ça devait être en 78 qu'ils avaient été montrés en projection de presse. Voilà. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Richard Dindo avait dit « Ce n'est qu'un début. Je vais faire en sorte de faire découvrir d'autres cinéastes de Suisse alémanique que vous connaissez pas en France. » Et notamment, je m'en souviens très très bien, il m'avait parlé de Freddy Murer.
Naguère en phase avec le cinéma 68-art, Richard Dindo fut classé contestataire avec L'exécution du traître à la patrie Ernst S., réalisé d'après un reportage du journaliste gauchiste Niklaus Meyenberg. Et aujourd'hui encore, ce sont ces films engagés sur Che Guevara, les combattants suisses dans la guerre d'Espagne ou les étudiants massacrés au Mexique qui font référence. Jean-Louis Kuffer.
Qu'est-ce qui vous avait mis, Richard Dindo, sur la piste de Ernest S., ce traître à la patrie qui vous a valu du reste d'être censuré télévision suisse ?
Je vivais à Paris, donc j'avais un ami qui était un grand journaliste suisse qui a écrit ce livre sur un traître à la patrie qui a été fusillé pendant la guerre pour une petite trahison qui était plutôt de l'ordre du vol, de la petite criminalité que de la trahison politique. Et on a fait un film ensemble sur ce sujet, qui est devenu un objet de scandale parce qu'on était les premiers à dénoncer un certain type de collaborationnisme suisse pendant la guerre. Et voilà comment je suis devenu fameux pour des raisons bassement politiques. Et depuis, on me réduit d'ailleurs à la politique. Alors que le documentaire, pour moi, c'est une réflexion. Il y a dans mes films une philosophie, je dirais, une pensée. Ça pense dans mes films. Il y a une pulsion de la pensée dans mon cinéma. Chaque image pense, et les phrases évidemment pensent, parce que la pensée, on peut l'exprimer essentiellement avec les phrases et les mots. Mais, je veux dire, mon cinéma n'est pas un cinéma politique au premier degré. Et sur les 27 films que j'ai faits, il n'y en a que quelques-uns qui sont des films dits de politique. Le documentaire se fait dans l'ombre de son sujet. Et quand j'ai un sujet politique, je fais un film politique. Mais ce n'est pas ce qui m'a essentiellement intéressé. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment fabriquer une philosophie du documentaire qui est la mienne, une certaine manière de faire des films, un certain type de regard et d'écoute, je veux dire, d'inventer une écriture dans le cinéma documentaire. C'est ça qui m'intéressait, avec des sujets toujours différents. Mais j'ai aussi fait des films sur des écrivains qui sont aussi des films de réflexion, de philosophie, à travers la pensée de l'écrivain lui-même, évidemment. C'est tout cela qui m'intéresse. Mais évidemment, au cœur de mes personnages en général, il y a quand même toujours le résistant, le rebelle, là, soumis. Et il est clair, je suis tombé en 68, dans le mouvement de 68, venant de la Suisse, étant politiquement naïf, innocent, stupide, c'est-à-dire suisse, sachant rien de rien. Et évidemment, je suis non seulement un enfant de la Cinémathèque, je suis aussi un enfant de 68. Mais 68 comme spectateur, comme témoin, comme suiveur, quelqu'un qui marchait dans la rue avec les autres, mais j'ai jamais été un militant, j'ai jamais levé la voix. Et, mais bon, ma pensée est une pensée 68arde, c'est clair. Et elle l'est restée, elle le sera toujours.
C'est la VHS. C'est une VHS. Mmh. Elle est au début. Oui.
Spontanément, qu'est-ce que vous allez chercher en revisionnant Max Frisch, Gérard Cro?
Je sais pas, non, mais c'est une ambiance, se retrouver dans une ambiance.
I remember one day, about 10 o'clock in the morning, coming off of the elevator for the pipe, and he dropped the pipe, and picked up the pipe, the goo, so, and he smoked, you know, like a... So, after that, he's coming over here. Look around, say, what is the weather today? What is the weather today? I said, well, it's very nice and clear. He said, thank you. I still put the right hand in the pipe and why?
Ce qui est, en revenant à ces images, je m'aperçois qu'il filme des gens ordinaires de la rue dans un documentaire, mais il les filme comme dans une fiction. Et je trouve que ces personnages, on les croirait sortis d'une fiction. Là, ce personnage qui vient de dire, raconter cette anecdote, on croirait que c'est un acteur qui joue, et il joue même mieux que beaucoup d'acteurs dans des fictions. C'est ça qui est, c'est ça le, comme ça, le, qui est passionnant avec Richard Dindo, c'est que ces films ont aujourd'hui l'étiquette de documentaire, mais c'est pas du tout des documentaires, à mon avis. C'est bien au-delà, quoi. Et c'est pas des fictions non plus, évidemment. Quand je dis au-delà de hybride, mais, à l'époque de ces films-là, on parlait pas vraiment de documentaire. Hein. Dans les années, par exemple, 60, 70, quand on parlait des films de Chris Marker ou de cinéastes dans cette mouvance, on disait un film de Chris Marker. Et à l'époque, on avait dit un film de Richard Dindo. Et c'est les années 80, surtout à cause des télévisions qui ont catalogué le documentaire, qui l'ont encadré. Donc on a commencé à faire une grosse séparation entre documentaire et fiction. Mais l'exemple d'un Richard Dindo, par exemple, ces films, on ne peut pas les limiter dans un domaine comme le documentaire. Et là, j'imagine que Richard Dindo, quand il rencontre ces personnages dans le film Max Frisch, eh bien, il doit faire plusieurs prises, les faire recommencer pour qu'ils aient la bonne intonation, le bon rythme. C'est, j'en suis persuadé, je n'étais pas présent sur les tournages, mais je le sens en voyant ça.
Je suis pastilleur. Il portait son linge dans cette blanchisserie chinoise et allait souvent dans le drugstore voisin.
Je suis formé par la fiction, je suis un enfant de la fiction. Mes cinéastes préférés, c'est les grands cinéastes, les mêmes d'ailleurs que ceux de la génération Nouvelle Vague, les gens comme Hitchcock, John Ford et Howard Hawks, etc. Aujourd'hui encore, les films que je préfère, c'est les films de cette époque, des années 40 et 50, encore 60. C'est-à-dire, dans mon cinéma, il y a une dimension fictionnelle. Il y a un certain type de classicisme du cinéma, c'est-à-dire prise de vue précise, des images qui font sens, on exprime quelque chose qui est reconnaissable, qui est lisible, etc. Je viens très clairement du cinéma classique et ça se voit un peu, disons, ça pourrait se voir dans mon cinéma. Que je suis un enfant de la fiction et que j'ai toujours pensé que le documentaire doit dépasser le documentarisme, doit aller vers une espèce d'invention. Et comme je travaille sur la mémoire, je suis happé par la fiction. C'est-à-dire, la mémoire implique qu'on cherche à montrer des choses qui sont invisibles. Donc il faut inventer des images qui sont des traces métaphoriques de ce qu'on ne peut pas montrer. Donc je suis toujours un peu dans une certaine fictionnalité. Mais ce qui m'intéresse dans le documentaire, ce que j'aime dans le documentaire, ce qui m'arrange, c'est que le monde est déjà là. Le monde est toujours déjà là, comme l'inconscient. On n'a pas besoin de l'inventer, ça m'arrange, parce que je n'ai pas la force de l'imagination. Je comprends ce que Simon de Beauvoir appelle le plaisir de l'imaginaire, mais moi-même, je ne le ressens pas. C'est-à-dire, je n'ai aucun plaisir d'imaginer. D'ailleurs, je ne sais pas imaginer, je n'ai pas envie d'inventer des histoires, des personnages, je trouve ça beaucoup trop compliqué pour moi. Et donc le documentaire, c'est vraiment, ça m'arrange, c'est ce qui me convient. Mon cinéma est un cinéma de fabrication, de construction, et c'est ça, sa dimension fictionnelle. C'est de l'ordre de la construction. Comme on construisait jadis les films classiques, plan après plan, on met en place une structure.
Washington Square. Les joueurs d'échecs devant les échiquiers publics en pierre. Je reste souvent là, et toujours debout. Je ne m'assois pas. Trattoria da Alfredo. J'avoue ne pas l'avoir découverte par hasard. Je l'ai cherchée comme pour y retrouver un sentiment, à cause d'une femme. Sentiment de honte d'être ici 2 ans après. Du reste, je n'ai vu la petite trattoria que de l'extérieur. Les chaises posées sur les petites tables, car c'est tôt le matin. J'ai eu peur en voyant ma silhouette dans la vitre. Il fait frais. C'est le printemps comme à l'époque, une matinée claire, bleue, avec le vent de la mer.
Et aussi, il a un sens du cadre. Justement, comme c'est quelque chose de très mis en scène, c'est essentiel, c'est comme chez les Straub, faut que le cadre soit parfait, autrement ça fonctionnerait pas, quoi. Autant, par exemple, dans le cinéma direct, on peut avoir des plans très mal cadrés, parce que c'est des prises sur le vif, donc ça fait partie du jeu. Autant dans le cinéma de Richard Mundoff, par exemple, s'il y a un travelling, faut qu'il soit parfait, s'il y a un plan fixe, faut qu'il soit parfait, autrement ça fonctionnerait pas. Et donc, on voit à chaque fois, il y a un soin particulier pour chaque plan, c'est très soigné, c'est très étudié, quoi.
Ce sont les images qui me poussent à écrire, et aussi les mots isolés, mais surtout les images, les situations.
Pierre 8, je pense, oui.
Quand elle descend l'escalier en bois, il ne pense pas à la nuit. Il la voit sautiller sur les marches, trébucher. S'il n'y avait pas eu la rampe où elle se raccroche in extremis par bonheur.
Alors là, avec le Kodachrome, qui était des couleurs, qui étaient... J'en parle au passé, parce qu'il a été arrêté en 2006, le Kodachrome, qui avait des couleurs très proches du Technicolor, avec des couleurs très tranchées. Les amateurs qui tournaient en Super 8, qui avaient été inventés en 1965, avaient la chance de tourner avec des couleurs absolument très picturales, enfin, qui étaient très anti-réalistes, c'était le rêve, quoi, le rêve américain, quoi. C'était des couleurs absolument magnifiques.
En fait, ce n'est pas tant Ernst Hess, cet imbécile, qui m'intéressait, mais sa famille. Et tous mes films débordent de la sphère politique. Cela étant, je suis un rebelle de 68 et le resterai toujours. Max Frisch a été mon père de substitution, la Cinémathèque de Paris fut mon école, et je dois mon premier choc de cinéphile à Godard. Mais les femmes comptent pour l'essentiel dans mon éducation et dans mon histoire personnelle.
Vous vous souvenez de la première fois où vous avez croisé Richardindo, Nicolas Philibert? C'était au cinéma ou c'était dans la vie?
C'était sur un tournage. C'était sur le tournage d'un film d'Alain Tanner qui s'appelle Le milieu du monde, au cours de l'hiver 1974. J'avais été engagé comme assistant d'Alain Tanner. Et Richard est passé nous voir sur le tournage et il est passé avec des copies sous le bras. Il se trouve que l'équipe était logée dans un château un peu, pas vraiment, pas un vrai château, un peu en ruine, mais dans lequel on avait pu installer quand même un projecteur qui nous permettait de regarder les rushs du film. Et donc on a pu, c'est comme ça que j'ai découvert, dans ce contexte-là, un soir, un ou deux films de Richard, des Suisses dans la guerre d'Espagne, et un film qu'il avait fait un peu plus tôt, me semble-t-il, sur des peintres naïfs. Voilà, je ne connaissais pas grand-chose au monde documentaire, mais ça a été tout à fait important pour moi de... Cette rencontre, cette découverte d'un cinéma qui est notamment le film sur les Suisses dans la guerre d'Espagne, qui au fond donnait une image un peu différente de la Suisse pays bien bourgeois, avec son, oui, un pays de l'ordre établi, comme ça. Et j'ai commencé à comprendre que Richard s'intéressait, comme beaucoup de cinéastes suisses d'ailleurs, à son pays, qu'il questionnait son pays, il en questionnait cet ordre, il en questionnait son côté lisse, son histoire, avec peut-être dans l'idée de replacer au cœur de l'histoire, j'ai envie de dire des gens du peuple, des gens ordinaires, des gens qui ont résisté, qui ont pris leur destin en main, des gens qui ont décidé d'aller combattre dans les brigades internationales en Espagne, voilà. Et puis à partir de cette première rencontre, je suis resté toujours très attentif au travail de Richard, au travail de Dindo. C'est quelqu'un dont les films me donnent toujours beaucoup à réfléchir. J'aime beaucoup le Che, j'aime beaucoup le film sur Kafka. J'aime beaucoup Ernst Hesse, l'exécution du traître à la patrie. Il y a des films que j'aimerais beaucoup bien revoir. Un film sur un chanteur catalan, Ramon, dont les chants de révolte manifestement aident, donner le moral à ses supporters comme ça. Hein. C'était un chanteur engagé. Ces films parlent de l'engagement aussi, hein, de la révolte, de l'engagement. Tous les films de Dindo. Dindo n'est pas un cinéaste militant, mais c'est un militant de la mémoire, un militant de l'engagement aussi. Ces personnages sont tous des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ne s'accommodent pas de la réalité telle qu'elle est. Ils veulent la changer, ils veulent se révolter. Mais c'est aussi Kafka qui ne s'accommode pas du monde tel qu'il est, qui se réfugie dans l'écriture. C'est bien sûr Rimbaud, c'est le Che.
J'ai souvent fait des films sur des morts. Il y a là comme un regret de ne pas les avoir connus, une envie de les faire revivre, d'annuler le deuil de leur absence, de vivre un peu avec eux, au moins le temps d'un film. Nous sommes des survivants et les morts, eux, ne méritent pas qu'on les oublie.
Choque estaba un poco adelantado y lo vio salir. Entonces alto. Yo dije, alto, se mueve los limpios. Se sentó Che Guevara y yo casi le apreté el gatillo, pero ese momento dijo, más les conviene que no me maten porque yo soy el Che.
Les tirs dans la vallée continuent quand l'armée décide à 17h de se retirer. Les soldats morts et les deux guerrilleros, Arturo et Antonio, sont portés sur des civières, suivis par le Che, baïonnés et entourés de soldats.
Quand vous faites un film sur Che Guevara, par exemple, Richard Dindo, on sent qu'il y a en vous aussi peut-être un engagement personnel. Il y a une fascination pour lui.
Non, il y a très peu d'engagement. Il y a réflexion. J'avais envie tout simplement d'aller en Bolivie et de savoir comment le Che est mort, pourquoi il est mort, comment ça s'est passé. C'est aussi une vraie curiosité parce qu'on ne savait finalement rien en Europe de ce qui s'était passé en Bolivie. Et puis, je me rappelle quand j'ai eu l'idée de ce film, ce qui m'a fasciné, c'était le terme « journal de Bolivie ». Vous voyez, j'ai fait ce film plus pour cela, je veux dire, le journal de Bolivie. Je trouvais que c'était un très bon titre pour un film. Et ensuite, le film, finalement, effectivement, est une métaphore d'une marche dans la mort. C'est une métaphore d'une défaite. J'ai toujours été fasciné, ému par les défaites, c'est-à-dire la Commune, la République espagnole et la guérilla du Che, ce sont mes repères. Mes repères, c'est les défaites. C'est l'homme vaincu, c'est le rêveur qui sera toujours vaincu. La révolution qui sera toujours empêchée. Et j'ai fait un travail de deuil là-dessus, mais d'une manière cinématographique.
Y empezamos a conversar, yo le pregunté que por qué él yo lo veo, le dije que usted es una persona psicóloga. Y usted con ese físico y esa inteligencia, ¿por qué usted tiene que verse así? Ideales. ¿Y su familia qué dice? Primero son mis ideales. ¿Tiene usted esposa? ¿Tiene hijos? Sí, tengo. Mira, me dice, yo creo que si me voy, si me llevan vivo, voy a hacer todo. Vas a tener un mejor futuro.
La fiction avec acteur ne m'intéresse absolument pas. Je suis un documentariste heureux. C'est mon territoire, un continent que j'essaie d'occuper à ma manière. Je n'ai ni l'ambition sociale, ni la force physique et psychique de m'emmerder avec des acteurs et des actrices. L'enjeu, dans une existence, est d'aller au bout de soi-même, de réaliser ses rêves, d'exploiter son potentiel et de trouver une économie qui permet tout cela. C'est-à-dire de savoir ce dont on est capable et d'aller au bout de cette capacité.
Chaque nouveau film de Richard Dindo, c'est d'abord l'occasion d'entendre ou de découvrir des textes, des grands textes, dits par de grands interprètes, Sammy Frey pour La Voix de Kafka, Jacques Bonafé pour celle de Rimbaud, ou Jean d'Autremay pour Verlaine, ou encore Christiane Coendi, qui dans le film sur Rimbaud joue la sœur de Rimbaud. Des textes, des lettres, des journaux fournissent la matière première du cinéma de Richard Dindo. Et c'est d'abord ça, c'est d'abord une plongée dans ces grands textes. Mais c'est pas, je dirais, Dindo, ces films rompent complètement avec le documentaire au sens didactique habituel, c'est-à-dire où il y aurait comme ça un commentaire un peu éclairant, un peu surplombant peut-être, un peu savant. On n'est pas dans un commentaire savant. On est dans les textes mêmes. Et c'est de l'intérieur que Richard Dindo va nous faire découvrir et un texte et une biographie. C'est toujours l'histoire d'une vie qui se termine souvent de façon tragique. La mort est très présente dans le cinéma de Dindo. Le passé, il le dit bien mieux que moi, mais c'est un homme qui s'acharne à constituer de la mémoire. C'est vraiment le cœur de son travail, ce travail de constitution de la mémoire. Comment vivre avec le passé, comment faire ressurgir du passé des figures connues ou inconnues pour qu'elles ne sombrent pas dans l'oubli, et comment, au fond, interroger... Je suis très frappé de voir que Richard est un homme qui a... Il est à la fois tourné vers le futur et vers le passé.
Dès mon adolescence, j'ai fait ce que j'ai voulu. Ouvrier dans la construction, mon père était le plus souvent absent de la maison. Au total, je ne dois pas avoir échangé plus de 30 réparties avec lui. Jamais il ne m'a dit ce que je devais faire. Jamais je n'ai eu le sentiment d'aucun respect entre mes parents et envers nous autres, leurs 5 enfants. Ensuite, quand j'ai eu 12 ans, c'est ma mère qui s'en est allée. Mais je ne m'en plains pas, cela m'a forcé à me débrouiller. En fait, je n'ai pas vraiment été éduquée à ce moment-là, je suis restée une espèce de sauvage. Richard Dindo.
Vous avez très vite, enfin dès les premiers films de Richard Dindo, proposé une lecture de sa façon de travailler. Et lecture qui me paraît toujours pertinente aujourd'hui, vous l'analysez comme ça. Qu'est-ce que c'est un film de Richard Dindo? En général, il y a des interviews. La découverte et la saisie d'un espace géographique, des documents d'époque, ça peut être des photos, des textes, des vidéos, et puis un texte qui est lu. Est-ce que vous diriez toujours la même chose aujourd'hui, Gérard Courant?
Ce qui est important, en fait, dans ces films-là, c'est, pour moi, c'est quand même c'est des fictions. C'est-à-dire que moi, je trouve ça plus fictionnel que beaucoup de fictions qui se disent fictions qu'on voit aujourd'hui dans le cinéma. Et là, avec Richardindo, il nous tient en haleine du début à la fin. C'est-à-dire que c'est vraiment bâti comme une fiction, ces films. Et il y a une dramaturgie. Et bon, c'était le cas aussi d'autres cinéastes qui ont travaillé dans des domaines un peu proches de Richardindo. Quand on voit les films de Jean Rouch, ils savaient aussi mettre en scène une dramaturgie. Et c'est quelque chose de très important. C'est le cinéma, quel qu'il soit, est un spectacle. C'est pas parce qu'on fait pas un film avec des acteurs que ça ne doit pas être un spectacle, qu'il ne doit pas y avoir de dramaturgie. Quand on voit les films de Flaherty, il y a une dramaturgie qui est très forte. Aujourd'hui, dans le cinéma dit documentaire d'aujourd'hui, beaucoup l'oublient. Les films de Richardindo, justement, nous rappellent que, avant tout, le cinéma est un spectacle.
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime. Et j'ai joué de bons tours à la folie, et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot.
Alors, le travail sur la mémoire, c'est quelque chose de périlleux parce que ça détruit les mythes. Et dans les documentaires de Richardindo, il y a un film qui a été finalement assez mal accueilli, c'est Rimbaud. Est-ce que vous l'avez ressenti, Nicolas Philibert, ça ?
Écoutez, pour moi, c'est un de ses plus beaux films, et peut-être le plus beau. C'est pour moi un des trois plus beaux. Je suis bouleversé quand je regarde ce film. Voilà, Jacques Bonnafé, 10 ans Rimbaud, c'est à tomber. Ces poèmes qu'on a appris à l'école et qu'on savait pas dire, auxquels on comprenait rien. Parce qu'on était trop petit, on nous apprenait ça en 6e, et tout d'un coup, là, dit par Bonnafé dans ce film, c'est magnifique. C'est un film qui vous noue la gorge.
Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris. Travailler maintenant ? Jamais. Jamais. Je suis en grève. Maintenant, je m'en crapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète. Et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être poète, et je me suis reconnu poète. C'est faux de dire je pense, on devrait dire on me pense. Je est un autre.
Il y a un poète juif que j'aime beaucoup. J'ai un blackout maintenant, comment il s'appelle ?
Jabès ?
Oui, Edmond Jabès, qui dit « Par où commence le monde ?» Par l'image ou par la parole? Évidemment, le cinéma, on dit, tout le monde dit, le cinéma commence avec l'image, il y a d'abord l'image, et il n'y a rien d'autre que l'image, et encore l'image. Moi, je pense que le cinéma peut aussi commencer, comme le monde, avec la parole. Et donc, un film sur un poète, il est évident pour moi, c'est d'abord un homme qui parle, et qui essaie de le comprendre, qui essaie de comprendre sa vérité à travers sa parole. Et ensuite, de mettre en scène cette vérité-là et lui rajouter des images que j'appelle les images possibles, qui chez Rimbaud, c'est les images de sa vie en Afrique et ailleurs. Je crois qu'avec le Rimbaud, je détruis le mythe de l'enfant poète, de l'enfant, le bel homme, le rebelle éternel. Et ce que les gens n'aiment pas dans ce Rimbaud, ici en France, c'est d'une part les acteurs. C'est-à-dire que c'est un film documentaire avec acteurs, ça donne un effet étrange, c'est difficile à assumer. Et puis, le fait que Rimbaud se renie, s'abandonne, erre dans les déserts d'Afrique et meurt bêtement, comme tout le monde. Vous voyez, je fais mourir Rimbaud, tout simplement. Les quelques personnes mythiques que j'ai fait, sur lesquelles j'ai fait un film, je les ai tout de suite dépoussiérées de leur mythe. Je leur ai rendu immédiatement leur dimension humaine. Mais avec le Che, ça a mieux marché. Tout le monde a accepté mon image du Che, même l'extrême gauche, qui est assez inhabituel de le faire accepter quoi que ce soit. Mais avec le Rambo, effectivement, je suis mal tombé. Disons, je suis un peu pas triste, je suis quelqu'un qui ne se laisse pas battre. Mais enfin, c'est un peu dommage que c'est un film qui n'existe pas en France. Alors que c'est le film où je suis allé le plus loin dans l'art de la biographie.
Le sauvage en question n'aime pas la vie de groupe. Si la vie de famille lui a paru supportable entre 6 et 12 ans, les réunions de plus de 2 ou 3 personnes lui sont toujours pénibles, alors qu'il ne s'ennuie jamais quand il est seul. À l'école, en outre, il s'est toujours senti l'étranger du groupe. Originaire de Vérone par son père, qui refusait cependant de parler italien en famille, il n'en avait pas moins un passeport italien et certains problèmes d'identité. Pas un hasard si ses premiers amis et sa première amoureuse étaient des juifs. Pas un hasard non plus si les destinées qui l'attirent sont souvent marquées par une blessure, surmontée par la révolte ou la création artistique. C'est ce qui l'a attiré vers Paul Gröninger, le fameux sauveteur de juifs, ou vers Charlotte, qui a documenté l'occupation dans une saisissante chronique à l'aquarelle avant d'être déporté par les nazis. Jean-Louis Kuffer.
Quel petit garçon vous étiez, Richardindo ?
Quel petit garçon ? Je suis né donc à Zurich dans une famille ouvrière italienne. Mon père était toujours absent parce qu'il travaillait ailleurs, donc je l'ai à peine connu. Ma mère en avait marre. Quand j'avais 12 ans, elle est partie aussi. Donc à 12 ans, je me trouvais seul au monde. Mais ça ne m'a pas beaucoup gêné, ça ne m'a même pas catastrophé. Un jour, je rentre à la maison, un frère me dit, tiens, on est seul, la mère est partie et le père n'est pas là non plus. Et donc, on était libre. Vous voyez, je veux dire, j'ai eu une enfance libre dans la mesure où personne ne m'a jamais dit, fais ceci, ne fais pas cela. Personne ne m'a jamais rien dit. Donc, totalement libre. Et je suis resté un homme libre, c'est-à-dire, j'ai toujours eu horreur de la dictature.
Avec peut-être un fond d'inquiétude quand même, parce qu'à 12 ans, sans les parents...
Oui, naturellement, une inquiétude qui s'aggrave d'ailleurs avec les années. Vous voyez, une espèce de... Vous voyez, c'est bien vu. Inquiétude. Plus même parfois, angoisse parfois. Mais volonté de résister. Continuer à vivre et faire les films que j'ai envie de faire et créer mon œuvre. J'ai toujours été étonné de faire des films... me demandant comment, moi, venant de nulle part, comment j'ai été capable de faire des films. Ma sœur me dit, comment t'as été capable? Je me le demande, moi aussi. Ça s'est passé comme dans un rêve. Très difficile à comprendre pourquoi on est capable de faire des films. Venant de d'où je viens, sans aucune culture, j'ai pas fait d'école importante, j'ai pas fait d'études, j'ai même pas fait le bac. Donc un autodidacte total. À l'âge de 12 ans, je commence à lire la grande littérature tout seul. Et je me suis fabriqué tout seul, d'abord dans la littérature, ensuite au cinéma, avec les films.
La littérature, c'est la colonne vertébrale de vos films aussi.
Oui, oui, comme par hasard, hein, je veux dire. C'est ce qui m'a formé. Je suis quelqu'un qui a été formé par la littérature, par la lecture, par les écrivains. Je ne suis pas fier de mes films parce que je les ai faits dans une espèce d'étonnement. Étonné toujours d'avoir fait des films dans une espèce de somnambulisme. Mais je suis un petit peu fier que, à 16 ans, allant dans une librairie chez un antiquaire, je vivais dans une maison de jeunes sans parents et on avait un argent de poche de 15 francs suisses par mois. Et avec ces 15 francs, j'ai acheté des livres tous les mois chez un antiquaire. Donc je vais chez lui et je cherche ce qui m'intéresse. Et un jour, je sors un livre qui s'appelait Combré. Un livre de poche, en allemand évidemment. Et je commence à le feuilleter et j'étais tout de suite passionné, saisi. Et depuis, je peux dire que cette écriture-là m'habite comme une musique, comme un rythme musical et intérieur. De ça, je suis un peu fier que j'étais capable, moi, fils d'ouvrier italien, venant de nulle part, de comprendre l'importance de l'œuvre de Proust.
On sait de vous, Richardindo, que la naissance, finalement, de vous, cinéaste, ça serait passé un petit peu à Paris. Mais avant ça, vous aviez quitté la Suisse pour prendre la route.
Oui, j'ai voyagé un peu en autostop. Et on voulait aller aux Indes, j'étais avec un ami. Et puis on n'avait plus d'argent, et puis on est revenu. Et j'ai passé par Bagdad, on s'est séparé à Bagdad, je crois. Et je suis allé visiter le musée irakien, le musée national de l'Irak. Et c'est essentiellement de la culture sumérienne. Je ne savais rien, de rien. J'étais étonné. Aujourd'hui encore, je suis étonné pourquoi je suis allé dans ce musée. Et j'étais ébloui par la beauté de ces objets, de la culture sumérienne, de ces objets d'alabastre blanc, des figurines. Et là, j'ai compris ce que c'est la culture. C'est-à-dire fabriquer des objets beaux en soi, qui sont en même temps des objets de mémoire. Je pense que tout mon cinéma est né là-dedans, dans cette conscience-là. Et là, j'ai compris à quoi sert la culture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on saurait aujourd'hui du peuple sumérien s'il n'y avait pas eu des artistes qui avaient laissé des objets impérissables? Malheureusement, le cinéma n'est pas impérissable. Et donc, c'est un grand problème, un problème immense, dont personne n'est vraiment conscient, sauf moi, parce que je connais la fragilité des choses, le côté périssable des choses, étant juste toujours angoissé par ce temps qui passe. Et voilà, c'est dans ce musée que je suis né cinéaste, probablement. En tout cas, où j'ai compris à quoi sert la culture. Et puis, je suis allé en Israël, et j'ai rencontré une femme là-bas, une juive espagnole. Et à l'époque, je n'avais aucune ambition. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je voulais devenir, disons, habitant d'un village de pêcheurs espagnols et ne jamais travailler. J'ai toujours pensé que travailler, c'est inutile, on perd son temps. Et lire, seulement lire. Et peut-être écrire, mais sans aucun but précis. Et cette femme, elle trouvait ça insupportable. Et elle m'a dit que tant que tu n'as aucun projet et aucune ambition, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Et elle m'a poussé à faire quelque chose. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu pourrais faire de ta vie? Quelque chose d'intelligent. Et elle m'a dit, fais du cinéma. Parce que son père était distributeur de cinéma en Espagne. Et voilà comment j'ai devenu cinéaste. Sachant absolument rien de rien. Enfin bref, et donc voilà. Après, je suis allé à Berlin pour faire des études de cinéma. Moi, j'avais aucun bac, j'avais aucun diplôme, rien. Évidemment, j'ai même pas été accepté à l'examen, que j'aurais d'ailleurs pas réussi. Et à Berlin, j'ai compris que j'avais rien à foutre en Allemagne, c'est un pays que je n'aime pas. Et j'ai lu dans un journal de cinéma que les gens de la nouvelle vague n'avaient pas fait d'études non plus, d'aucune sorte, qu'ils étaient allés à la cinémathèque pour voir des films et que c'est largement suffisant pour devenir cinéaste. Et à cette époque, j'ai vu un film qui s'appelait Pierrot le Fou, en allemand. Et c'est un autre étonnement de mon existence. Pourquoi ai-je été capable de comprendre ce film? Moi qui ai été éduqué par personne qui ne savait rien, comment j'ai été capable d'être ébloui par la beauté, le lyrisme, la poésie fulgurante de ce film? Et ce qui m'a gêné, c'est évidemment que c'était en allemand. Et je me dis, tiens, il faut aller à Paris, apprendre le français, voir ce genre de film en français, lire Proust en français. J'étais en train de lire, relire Proust à cette époque, et d'aller à Paris et d'aller à la cinémathèque. Et voilà comment je suis devenu cinéaste. De Bagdad, Berlin à Paris.
Les 9000 pages de son journal, qu'il appelle le livre des coïncidences, sont entièrement rédigées en français. C'est là qu'il se raconte, tous les jours. Sa franchise absolue, notamment en matière de vie érotique, lui valut un divorce après que sa deuxième femme se fût indiscrètement risquée à sa lecture. Il dit « J'écris mon journal pour que le temps puisse continuer à couler. »
Ce qui me frappe dans votre travail documentaire, Richardindo, c'est que finalement, vous nous proposez de rentrer dans des univers essentiellement masculins, à part, d'un côté, Charlotte Salomon, le portrait que vous avez fait de cette jeune femme, et une partie de votre travail que je connais peu et où j'ai bien compris qu'il y avait aussi des femmes qui se passent dans les hôpitaux, où vous avez travaillé notamment avec 3 jeunes filles. Mais sinon, j'ai l'impression que les femmes sont un peu à la marge dans votre œuvre.
Les femmes dans ma vie sont essentielles, elles m'ont tout appris. Et dans mes films, elles sont très présentes mais, et importantes, et souvent plus présentes et plus importantes, comme d'ailleurs dans la vie, que les hommes.
Mais comme narratrice, mais, pas comme figure centrale.
Oui, c'est ça. Mais la figure centrale est plutôt un homme chez moi, c'est vrai. C'est lié sans doute au père absent, mais aussi au fait que j'ai l'impression que c'est aux femmes de filmer les femmes. J'ai l'impression que c'est pas moi de filmer les femmes. On me le dit parfois, pourquoi ? Oui, mais effectivement, comment vous viennent les idées ? Pourquoi on fait tel ou tel film plutôt qu'un autre ? C'est l'ordre de la logique et du hasard. On ne peut pas savoir. Mais ça ne correspond pas à ma vie. Ma vie est peuplée de femmes, et pratiquement que de femmes. Les hommes ont joué toujours un rôle secondaire dans ma vie. Mais effectivement, je cherche un peu à m'identifier avec mes personnages. C'est-à-dire, moi je suis un cinéaste, ce que j'appellerais objectiviste. J'aime être absent. J'aime être invisible. J'aime les artistes qui se mettent eux-mêmes en jeu et au cœur de leur œuvre, mais je ne saurais pas faire ça et j'aimerais pas faire ça. J'aurais ni l'ambition, ni le narcissisme, ni la volonté de le faire. J'aime être absent. Et donc, je m'identifie par contre à l'autre qui parle à ma place et qui dit ce que je pense moi-même. Tout ce qui est dit dans mes films, c'est ce que je pense moi-même. Et quand je fais des films sur des écrivains, chaque phrase que je choisis pour citer dans le commentaire, dans la voix off, dans ce que j'appelle le monologue intérieur de mon personnage, chaque phrase, je l'ai rêvée moi-même d'une certaine manière. C'est-à-dire le langage de l'autre est mon propre rêve du langage. Donc il est logique que je fais ça plutôt avec des hommes. Même si Simone de Beauvoir, je pourrais aussi parfaitement m'identifier avec elle. Je veux dire, quand elle écrit à Al Green tout ce qu'elle dit, Marguerite Duras, je veux dire, les grandes françaises, je peux aussi facilement m'identifier avec leurs sentiments et leur langage. Mais il se trouve que j'ai fait les films que je devais faire. Mais vous avez raison, le personnage lui-même, vivant ou mort, est en général un homme chez moi. Mais justement absent.
Ça vous arrange qu'il soit absent?
Ça m'arrange assez.
C'est à Paris que j'ai appris que le langage n'est pas un mal nécessaire, mais un objet de beauté. Que parler veut dire se souvenir du langage et voir, avoir déjà vu. Que la vérité est une structure de fiction, qu'on ne crée pas, qu'on ne fait que traduire. Que la vie n'est immortelle que grâce à l'art, que le but du roman comme d'un film est de peindre ce qu'on aime, qu'on ne peut échapper à la fatalité de sa naissance, que raconter une histoire c'est toujours aussi parler de l'enfance, que l'écriture est une opération musicale, que tout est mémoire, que le temps, comme la fiction, comme la mémoire elle-même, n'existe que reconstruit, que le vrai monde, la vraie histoire est faite par les résistants, qu'on a raison de se révolter et que les femmes sont la moitié du ciel.
C'est troublant, Richardindo, parce qu'au fond, votre territoire du documentaire, c'est quand même toujours le territoire de gens ou morts ou absents.
Mmh. Oui, ça a sans doute à faire avec l'absence du père dans ma vie. C'est-à-dire, on vient toujours de très loin, on ne sort jamais vraiment de l'enfance, on est toujours la personne qu'on a été très dès le début d'une certaine manière. Il est clair que j'ai toujours été hanté par cette absence-là. Et aussi cette fascination pour la mémoire vient de cette enfance un peu perdue, sans doute. Cette difficulté de vivre dans le présent concret. C'est clair, hein, je vis dans les villes avec les morts qui me regardent. Je me sens regardé par les morts. Et surtout, quand je fais un film sur le Che, sur Gauguin, sur Kafka, ces morts-là me regardent. Et j'essaie de faire des films qui leur sont dignes, et qui sont dignes de moi-même et du cinéma documentaire que j'essaie de faire.
Dans ces deux derniers films, Mars Dreamers et Gauguin, Dindo l'utopiste nous ramène sous la lumière froide et lointaine de la planète rouge, à la beauté menacée de la Terre, ou à celle que Gauguin cherchait en transfigurant les paysages et les visages de Tahiti et des îles Marquises. Jean-Louis Kuffer.
I think eventually humans will go to Mars. I think that is for sure. What we will do there is not yet certain. It may be that we will explore Mars the way we explore, say, Antarctica, with small research bases that operate for a long period of time. It may be that we will go to Mars and really establish a whole new civilization on a new world.
Ça, c'est mon dernier film.
Qu'on verra bientôt à Paris, je crois. Ouais,
échec complet en Suisse. je croyais faire un film à succès. Je suis Dindo, maintenant, pour que le système ne te détruise pas, pas trop rapidement, parce que le système est à la dérive. Je parle du financement du cinéma, de la télévision, etc. Tout cela est dans un état, disons, l'approche de la catastrophe. Comment continuer à faire du cinéma jusqu'au bout? Parce que mon but était de créer une œuvre dès le départ, d'aller jusqu'au bout et de faire le plus grand nombre de films possibles. Brecht, le poète allemand, disait un jour, dans la théorie, il faut entrevoir toute la marche. Et dans la pratique, il faut avancer pas par pas. J'ai exactement appliqué cette phrase. Entre autres, c'est une des phrases que j'ai appliquées. Donc je me suis dit, Tindo, maintenant il te faut un petit succès, sinon tu feras plus de films. Et donc, allons sur Mars. Et effectivement, il y avait une fascination du paysage martien. Et puis, quand même, une petite rêverie sur l'utopie. J'ai toujours pensé que le passé est de l'ordre de la mémoire et l'avenir est de l'ordre de l'utopie. Et le présent n'existe pas. Et je pense que l'utopie de l'humanité, l'humanité a un rêve et on est mort quand on n'a pas un rêve. Déjà, les Égyptiens, les Babyloniens, etc., connaissaient l'existence de Mars, en rêvaient. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on finira par faire. Malheureusement, nous, on ne le vivra probablement plus. Mais le premier pas d'un homme ou d'une femme sur Mars, ce serait un événement exceptionnel. La Lune est une dérive, une déviation, une impasse. La vraie planète, la plus proche de nous, la plus intéressante, c'est Mars.
Oh, I would definitely go to Mars in a second. When I was a youngster and was watching the Apollo space programs and man landing on the moon, I was so excited about it. And I kept telling everybody I knew that I was going to be the first woman on Mars. That was my goal. Now, if I could just get on board to go, it'll be perfect.
Les gens de mon film pensent sincèrement qu'il y a des êtres humains ou des êtres ailleurs, sur d'autres planètes. Et cette idée m'a toujours fasciné, moi-même. J'ai toujours pensé que si un jour l'humanité rencontrait d'autres êtres qui viendraient d'autres astéroïdes ailleurs, ce serait l'événement clé de toute notre histoire qui mettrait en cause notre lococentrisme, nos origines, notre conscience de nous-mêmes, notre vision du monde, de l'avenir, etc. Je veux dire, ce serait un bouleversement total et absolu. Et malheureusement, ça, on ne le vivra jamais cet instant-là, mais ça m'a toujours fasciné, cette idée qu'on pourrait rencontrer un jour des êtres qui viennent d'ailleurs.
C'était Passeur de réel, Richard Dindo, avec Gérard Courant, Nicolas Philibert, Richard Dindo. Nouche Jouglet-Marcus lisait des textes de Richard Dindo et des extraits du carnet de Jean-Louis Kuffer, journaliste et écrivain suisse roman. Extrait de Max Frisch, journal 1-3, Arthur Rimbaud, une biographie, Ernesto Che Guevara, le journal de Bolivie, Qui était Kafka, Les rêveurs de Mars. Prise de son, Rémi Fessard, Xavier Atto. Mixage, Philippe Thibault. Coordination, Christine Gage, Laure-Hélène Plancher. Un documentaire de Nathalie Battus et Irène Omelianenko pour Sur les docks.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 mai 2010.